Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et quelle émission cette semaine, quel moment! Le moment de la liberté, le moment de l'une des plus belles fêtes du judaïsme, les plus importantes. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Alors Rav Lemel, on va parler avec vous du Seder. Mais vous avez aussi envie de nous donner à réfléchir sur Pessah, qui est aussi appelée la fête du printemps. Et c'est intéressant parce que c'est précisé que ça doit être la fête du printemps. Donc il y a une idée. Qu'on peut même d'ailleurs essayer déjà d'imaginer par rapport à la liberté, etc. Pourquoi est-ce que Pessah, c'est la fête du printemps ?
Exact. Alors vous savez que tout d'abord, petite précision très technique, le fait que la Torah nous dise « Hayom atem yotzim b'chodesh ha'aviv », vous sortez alors que c'est « chodesh ha'aviv », le mois du printemps, ça va nous poser une petite complexité au niveau du calendrier, vu que le calendrier juif est un calendrier lunaire, et que le calendrier lunaire, le mois, c'est 29 jours et demi et quelques fractions en plus. Et donc, évidemment, si on est basé que sur le calendrier lunaire, au niveau des saisons, ça va au fur et à mesure se décaler. Et donc, c'est la raison pour laquelle le calendrier juif est particulier. Il est à la fois basé sur la lune et le soleil. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, on a un mois de Hadar en plus pour pouvoir faire en telle sorte qu'en effet, les fêtes correspondent aux saisons. Alors, Hayom atem yotzim b'chodesh ha'aviv, c'est le mois du printemps. Rappelons-nous que Pessah va avoir lieu dans un mois qui s'appelle le mois de Nissan. Et Nissan, nos maîtres disent, c'est aussi Nissim, ce sont aussi les miracles. Nissan, Nissim, il y a une homonymie, une quasi-homonymie parfaite des choses. Et en effet, c'est quelque chose qui nous parle. En effet, le mois des miracles, de la sortie d'Égypte, celui dans lequel la mer va s'ouvrir, donc il y a du vrai miracle. Et peut-être que justement c'est ça l'enjeu, il y a un autre miracle. Et ce miracle, c'est le miracle du printemps, j'aurais presque envie de dire, c'est le sacre du printemps, n'est-ce pas, ce moment dans lequel on voit le sacré. On voit la présence d'Hachem dans l'univers à travers ce renouvellement incroyable de la nature. C'est tellement merveilleux. D'ailleurs, c'est le mois dans lequel on va faire la bénédiction sur les arbres fruitiers qui sont en fleurs, parce que tout était mort, parce qu'a priori, la nature semblait s'être arrêtée avec cet hiver. Et puis, ça y est, il y a quelque chose, si on réfléchit, d'incroyable. Ce miracle de la nature, au fond, c'est celui qu'on doit voir. Alors, évidemment, la difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à le voir parce qu'on est habitué. Et on va dire, d'ailleurs, le soir du Seder, que l'Oal Yodé Malach, l'Oal Yodé Savraf et la Kadosh Baruch Hu Bichvodeh Ubeatzmo. On va dire, vous savez, quand on est sorti d'Égypte, ce ne sont pas des envoyés de Dieu qui nous ont sortis d'Égypte, mais c'est le Créateur lui-même. C'est très beau, mais ça veut dire quoi? Alors, Malahar, un envoyé, un ange, c'est pour le traduire différemment, ce sont toutes ces énergies, tous ces individus aussi parfois qui ont des missions à remplir par rapport au projet divin. Et en effet, être capable de voir dans la nature, être capable de voir dans les événements la présence du Créateur de l'univers n'est pas toujours si simple. Surtout quand on a été plongé en Égypte, dans un système complètement idolâtre. Donc au moment où en effet on va sortir d'Égypte, là, en effet, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelque chose de totalement visible. C'est Akadosh Baruch Hu Bichvodeh Ubeatzmo, c'est le Créateur de l'univers, lui et lui seul, qui va nous apparaître à travers des miracles, j'ai envie de dire, miraculeux vraiment. Et c'est juste pour réinscrire cette idée qu'il y a le Créateur de l'univers. Mais dans un second temps, il faudra Chag Ha'aviv, il faudra que ça soit la fête du printemps, il faudra être capable de voir la présence divine eh bien, dans ce printemps, dans ces fleurs, dans ces arbres, dans ces bourgeonnements, enfin, dans cette chose tellement belle qu'est la nature qui nous entoure. D'ailleurs, nous savons que le nom de Dieu, Elohim, a la même valeur numérique que le mot Hateva, qui veut dire la nature. On doit être capable, en effet, de le voir et de le retrouver. Donc, ça y est, on sort d'Égypte. C'est le moment dans le grand concours d'Hachem. C'est le moment dans lequel on va vers cette liberté et on commence à se remémorer de cela à travers ce fameux Seder. Et alors, évidemment, la question n'est pas juste celle de la liberté. La question est de savoir, à partir du moment où je me sens libre, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai fait le choix de créer ma propre histoire, alors comment ça se passe par la suite ? Il y a une idée très intéressante, d'ailleurs, que j'ai entendue récemment, très joliment développée par le Rav Sadin, qui dit la chose suivante. Vous savez que quand Dieu dit à Moshe, pardonnez-moi pas Dieu, exactement le contraire, lorsque le Pharaon dit à Moïse, à Moshe, ça y est, partez, il faut absolument que vous partiez, on est dans cette fameuse dixième plaie, on va attendre exactement le moment dans lequel nous décidons de partir, le moment dans lequel le Créateur de l'univers va nous dire de partir, et c'est le matin qu'on va partir. Pourquoi ? Parce que quand c'est votre maître qui vous renvoie, tout simplement, c'est lui qui a décidé de vous libérer. Alors bien sûr, il le fait parce qu'il n'a pas le choix, mais il a fait cet acte de nous libérer. Moshe dit non, c'est nous qui nous libérons, c'est nous qui décidons de sortir. Et quelque part, quand on est capable justement de créer notre liberté, vous savez, cette liberté, on se la crée lorsqu'on décide de sortir de nos mauvaises habitudes, de nos addictions, de nos peurs, de nos stress, de tout ce que vous voulez, qu'on décide de se libérer du poids, pardonnez-moi Bernard, de la radio et des informations continues, qu'on décide de se libérer, à ce moment-là, c'est quoi la suite ? Et la suite, au fond, elle est passionnante parce qu'elle commence avec le Seder. Et Seder, c'est quoi ? C'est un ordre. Et ça veut dire quoi ? Alors, on va, si vous le voulez bien, jouer avec le mot, on va jouer avec les lettres, puisque le mot Seder, ce sont les mêmes lettres que le mot Dores. Seder, Samer, Dalet. Resh, Seder, Dores, Dalet, Resh, Samer. C'est les mêmes lettres. Mais Dores, ça veut dire quoi ? Ça veut dire piétiner. Alors essayons d'imaginer que je sois avec vous et que vous me prêtiez votre montre et que je décide de la piétiner complètement, totalement. Et quelques instants après, vous venez, vous dites, vous me donnez ma montre et je prends avec soin un petit sachet en plastique et je vous le donne. Et vous découvrez à l'intérieur de ce sachet votre montre mise en 1000 morceaux. Vous me dites, mais ce n'est pas ma montre. Je vous dis, mais si. Je vous garantis, Bernard, que la totalité de tout ce qui constitue cette montre est présent à l'intérieur de ce sachet en plastique. Mais je ne vous ai pas rendu votre montre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que votre montre ne veut plus remplir sa fonction ? Pourtant, toutes les pièces sont là, mais elles sont en désordre. Elles ne sont pas à leur place. Au fond, le céder l'ordre, c'est ne pas piétiner nos potentiels et faire en telle sorte qu'ils n'agissent pas là où ils doivent être. Le céder l'ordre, c'est la gestion des priorités. C'est savoir à quel moment de notre vie on se trouve, c'est savoir où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les priorités dans notre existence. Vous savez, c'est comme un petit peu une personne qui voudrait créer une entreprise et qui est en train de discuter pendant des heures sur la couleur de l'emballage et qui n'a pas encore été voir le banquier pour savoir s'il est prêt à lui accorder une ligne de crédit pour acheter les matières premières. Donc maintenant, il y a autre chose à faire. La kolzman va'et achat ha-shamayim, dit le roi Salomon. Il y a un temps pour tout. Et le soir du Seder, on dit, ça y est, tu as décidé d'être libre. Mais maintenant, la suite de ton histoire, maintenant qu'il n'y a rien qui est au-dessus de toi, si ce n'est ton choix de prendre comme référence la Torah, le créateur de l'univers, pose-toi la question. Quelles vont être tes priorités dans la vie ? À quel moment tu te trouves ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Et on introduit le Seder de cette manière. Et alors qu'on l'introduit, on va commencer à dire des phrases. On va d'abord raconter ce qui va se passer. Et je vais m'arrêter juste sur les deux premiers mots. On va dire Kadesh, Urechatz, Karpas, Yachatz, Kadesh, sanctifions. Urechatz, lavons-nous les mains. Alors, le Kadesh, nous le savons, ça correspond au Kiddush, Le kiddush, c'est le moment dans lequel nous allons sanctifier le jour sur ce verre de vin. Et puis après, nous allons nous laver les mains. Et les maîtres de la chassidout nous ouvrent sur une lecture passionnante. Ils nous disent « Kadesh, sanctifie-toi, fais un acte positif, ourochatz ». Et c'est vrai que dans un second temps, tu dois te rappeler qu'il y a des choses dont il faut que tu te débarrasses. Il y a des choses qui ne doivent pas être présentes dans ta vie. Il faut se laver. Il y a des scories à faire disparaître de son existence. Mais si tu attends de t'être débarrassé de toutes tes peurs, de tous tes traumas, de toutes tes transgressions, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'es pas vraiment ce que tu voudrais être, avant d'agir de manière positive, eh bien, ça risque de ne jamais le faire. Et c'est ça qu'on est en train de nous dire. Kadesh Urochatz. N'aie pas peur. Sois capable de faire un acte positif. Oui, en effet, tu ne manges peut-être pas kasher aujourd'hui, mais tu peux mettre tes tefilines. Oui, en effet, tu ne fais pas Shabbat, mais peut-être que votre couple peut garder les lois de la pureté familiale. Kadesh Urochatz. Organiser sa vie, c'est savoir qu'au fond, on met en place des actes positifs tout en sachant qu'il y a des choses à régler chez nous encore. Et c'est comme cela, en effet, qu'on entreprend ce chemin, non seulement dans la liberté, mais vers une construction qui est la construction éternelle du peuple d'Israël.
Bien, on va essayer d'y réfléchir. D'ailleurs, c'est vraiment le soir pour réfléchir. Donc, on va se nourrir de tout ce que vous avez dit. Sous votre contrôle, je voudrais rappeler peut-être deux choses. C'est important, y compris pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas les plus pratiquants. On a de manger du pain, je parle pour les Parisiens, demain à 11h. De nouveau, hein, je parle sous votre contrôle, c'est vous qui dites. On ne prépare pas le seder pendant Shabbat parce que c'est un peu désacralisé le Shabbat. Donc on attend le soir et on fait le seder. Il y a peut-être une autre petite règle que vous voulez rappeler, Rav Lemel.
Oui, vous, enfin, au niveau de l'horaire, je ne l'ai pas regardé, mais c'est 11h. Je crois que c'est 11h ou 11h20, quelque chose comme ça. On se rappelle que la manière la plus simple, eh bien, ça sera de faire le motzi sur des pitotes, parce que vous savez que les pitotes, c'est ce qui fait moins de miettes. Beaucoup de personnes, mais ce qu'elles feront, tout est cuisiné pour Pessah, alors on se lavera les mains. On ira, si on en a la possibilité, soit dans une chambre, soit dans l'entrée. Entre eux. Motzi, on mangera un kazaïd, c'est-à-dire 30 grammes, voire 50 grammes pour certains, de pain. Et puis, on ira, on se rincera bien la bouche. Ce qui reste comme chametz, eh bien, si c'est de la pita, on le jettera aux toilettes, et puis voilà. Et puis, si vraiment c'est trop compliqué, on peut le mettre dans la partie qui a été vendue. Mais bon, je pense qu'on peut se permettre de faire comme cela. On se lave bien les mains, on se rince bien la bouche, et on commence à ce moment-là, tranquillement, le repas du Shabbat.
Ravéli Lemel. Merci et de nouveau Shabbat Shalom et passez de grandes et de belles fêtes. Bonsoir à vous.
Chag Sameach.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Rav Biton, bonsoir à vous. Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Shabbat Shalom, Chag Sameach. Qu'est-ce qu'on peut ne pas souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut ne pas souhaiter ? Tout ce qu'on peut souhaiter, on va pouvoir se le souhaiter pour se préparer.
Alors, qu'est-ce qu'on va se souhaiter ? On sait que ça fait un peu formule, mais quand en plus on est avec un Rav qui est à Jérusalem, il faut absolument qu'on utilise la bracha pour libérer nos otages.
Amen.
Le retour des soldats, qui puissent rentrer en famille et faire le seder, et voilà. Et puis peut-être que c'est pas trop rêvé que de dire qu'un jour il y aura la paix. Donc espérons.
Voilà. On va souhaiter la délivrance totale, délivrance totale, finale, absolue. Comme disent nos sages, c'est en Nissan qu'on a été libéré, c'est en Nissan qu'on sera libéré. Il y a un potentiel de libération immense, énorme dans ce mois-là et notamment dans la fête de Pessah.
Ah bon, magnifique. Et comme ça, ben on n'aura pas Tisha B'Av. Alors, Rav Biton, vous voulez réfléchir sur le CDR, et il y a un enjeu au CDR. Alors, qu'est-ce qui se joue ?
Alors, regardez, quand vous regardez ce que dit la Haronim, c'est-à-dire les autorités spirituelles des 200 dernières années, et notamment chez les Chassidim, mais même le Khatam Sofer, en Hongrie, vous voyez que cette nuit-là mérite son nom de nuit de la Emouna, c'est la nuit de la foi. Il faut revenir dans le contexte. Dans les Bnei Israël, ont sacrifié la divinité égyptienne au nez, à la barbe des Égyptiens. Ils ont fait là un acte de libération spirituelle, mentale, psychique, dans cet ordre, spirituel, mental, psychique, qui leur a permis, qui a permis la vraie libération. Et donc cet acte, il a été rendu possible par leur courage, mais il a été rendu possible aussi parce que pendant cette nuit-là, la nuit du 15 Nissan, Hachem envoie un flux de bénédictions et de forces spirituelles qui ne dépendent même pas de l'éveil spirituel des Bnei Israël. Souvent, on a vu dans l'histoire du peuple juif que Hachem a réagi à un réveil spirituel. Le peuple juif fait teshuva, se rapproche, se reconstruit, et Hachem envoie un flux de bénédictions. Dans la nuit du 15 Nissan et la libération d'Égypte, cet élément est absent. C'est du chesed, de la bonté et de l'amour pur. Et donc, il y a là, ici, une possibilité de s'éveiller à la Emouna, à la foi, qu'il faut définir ici. Qu'est-ce que c'est la Emouna? La Emouna, c'est d'abord la connaissance de la manière dont Hachem gère l'histoire, de la manière dont il intervient dans l'histoire. Et donc, durant cette nuit où on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte avec tous les miracles, on raconte également l'histoire du peuple juif. On part du négatif pour arriver vers le positif. Ça fait partie des règles de cette nuit. Et on va également mentionner trois choses. La matza, qui est le pain par lequel les Bnei Israël se libèrent. Le Korban Pessah, qui est le sacrifice, comme j'ai expliqué, qui permet de faire advenir cette libération. Et le Maror, parce que la vie n'est pas que joie. Dans la vie, il y a des épreuves, il faut savoir les surmonter. Donc on va avoir dans cette nuit-là tous les ingrédients de la réflexion sur l'aventure humaine, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Et par exemple, le Siftei Tzadikim, c'est Rabbi Mendel de Rimanov, écrit que pendant la fête de Pessah, eh bien, ce qui scintille sur l'ensemble du peuple juif, c'est une lumière de sainteté qui est si puissante que chacun peut parvenir à une émouna, à une foi qui est parfaite et à une connaissance, c'est surtout ça le mot important, à une connaissance par le récit du Seder et par toutes les questions, par toutes les questions qu'on pose et les réponses qu'on amène, à une connaissance de la manière dont Hachem intervient dans l'histoire. Le Khatam Sofer également, en Hongrie, c'est une grande autorité, le Khatam Sofer, écrivait que pendant cette nuit-là, il n'y a aucune force d'impureté qui puisse avoir aucune emprise sur un Israël. C'est une nuit de libération également sur le plan psychique et spirituel. Le rabbi de Radomsk, il avait l'habitude de dire que cette nuit-là, Leil Shimurim Lechol Bnei Israël, cette formule-là qui est marquée dans la Torah, qui est la nuit où les Bnei Israël sont protégés, la fin des mots, Leil Shimurim Lechol Bnei Israël, la fin des mots, c'est Mila, la Mila. C'est-à-dire que pendant cette nuit-là, si un homme se concentre complètement sur l'intervention d'Hachem dans l'histoire, sur les miracles que Hachem y fait, les miracles voilés et dévoilés, pendant cette nuit-là, il a la promesse qu'il va pouvoir garder un certain niveau de sainteté. Et dans notre génération, c'est fondamental parce que l'épreuve numéro un de notre génération, c'est l'épreuve de la sainteté. Je ne parle pas de celle de Baba Salé ici, je ne parle pas de celle des Kedoshim et Elionim, des saints du peuple juif. Je parle des confrontations quotidiennes de chacun d'entre nous, que ce soit avec les téléphones, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail. Les confrontations ici, elles sont essentiellement liées à la capacité de garder un certain niveau de sainteté. Rabbi Yehoshua de Belz, le rabbi de Belz, il dit que cette nuit-là, d'accord, on répond à beaucoup de questions que les Bnei Israël se posent, d'accord, et en même temps, pendant cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu va écouter les demandes. Et donc, c'est aussi la nuit pendant laquelle on peut demander des choses. Le rabbi de Kojnitz dit que pendant cette nuit-là, on peut retourner toutes les xérotes. Toutes les xérotes. D'ailleurs, c'était connu que le rabbi de Kojnitz avait des kavanot, des intentions très particulières, et que c'était un homme qui avait une prescience absolument, qui n'était pas de ce monde, de ce qui se produisait donc dans les cieux, dans les mondes supérieurs, et il priait pour que les mauvaises xérotes, les mauvais décrets qui pesaient sur Amisraël soient retournés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a 15 étapes. 15 étapes, et ces 15 étapes, elles nous emmènent de Kadesh, Kadesh qui est le Kiddush, mais le Kiddush, c'est toujours à la fois la sanctification et la séparation. C'est-à-dire qu'il y a ici une nuit qui est séparée de toutes les autres nuits par tout ce qu'on y fait, par tout ce qu'on dit, par tout ce qu'on raconte, et qui va se terminer avec le Hallel. Le Hallel qui est un qu'on va réciter avec Bracha, qu'on va réciter donc une partie avant le repas, une partie après le repas, qui est, on dirait en français, un chant de gloire. C'est un chant que David HaMelech, le roi David, a écrit, dans lequel il a enchâssé toutes les expressions de libération qu'on puisse imaginer, toutes les demandes de libération qu'on puisse imaginer. Et donc, à l'intérieur de ces étapes, on va raconter, on va poser des questions. Alors, il faut rappeler aussi une chose à toutes les auditrices et nos auditeurs, c'est que le centre de la soirée, c'est les enfants. Il y a une formidable histoire qui est racontée, qui se passait à Auschwitz, où ils avaient réussi à faire une matzah. C'est le rabbi de Bloujov qui a raconté cette histoire, qui est à New York, qui est décédé il y a quelques années. Et il raconte qu'ils avaient réussi à faire une matzah. Alors, ils avaient eu un vikouar, il y a eu une dispute pour savoir à qui on allait donner à manger cette matzah. Certains ont dit au tzaddik. Le tzaddik, il va la manger parce qu'il va la manger avec des intentions pures. Il va nous acquitter. Et une femme s'est levée, elle a dit non. Il faut la donner aux enfants. C'est les enfants qui vont la manger. Et effectivement, elle a parlé avec tellement d'éloquence. Et ces arguments ont été tellement brillants que finalement l'Assemblée a accepté. À Auschwitz, il y avait une année où ils ont réussi à avoir une matzah et ce sont les enfants qui l'ont mangée. Parce que les enfants sont le centre de cette histoire. Parce que le fond de l'histoire ici, c'est la transmission. Ça fait maintenant 3338 ans depuis la sortie d'Égypte, depuis que le peuple juif est apparu sur la scène de l'histoire, que des millions de parents racontent à des millions d'enfants ce qui est arrivé à des millions de juifs qui ont vécu la sortie d'Égypte. Et qui ont vu la révélation sinaïtique. C'est d'ailleurs la marque de fabrique du judaïsme. On n'est pas ici en présence d'un individu qui a reçu une révélation. On est ici dans le récit d'un peuple qui se transmet de génération en génération par des millions de gens. Et ça fait comme ça plus de 33 siècles que ce récit donc se transmet. Donc c'est ça l'histoire, c'est la transmission, c'est de répondre aux questions des enfants, c'est de susciter les questions des enfants. Alors on raconte de manière un peu humoristique qu'il y avait un père qui donc au début du Seder, comme on le sait, on s'affaire à changer un petit peu l'ordre des choses, on fait le kiddouche, mais normalement le vendredi soir, une fois qu'on a fait le kiddouche sur la coupe de vin, on se dirige vers la cuisine pour se laver les mains et revenir à table manger du pain. Et là on ne fait pas ça. Et donc le père montre à ses enfants qu'il change complètement la manière d'agir. Et les enfants ne posent pas de questions. Alors à un moment donné, le père dit, vous ne voyez pas que j'ai changé les choses, que j'agis différemment? Et plutôt vers les enfants, il leur dit, mais c'est pour que vous posiez des questions. Alors les enfants disent, quand papa fait quelque chose, on ne pose pas de questions. Alors c'est là qu'on sait si on a réussi le chinour de ses enfants ce soir, si précisément quand on change les choses, les enfants posent des questions. Ou si au contraire, on est un père un petit peu fouettard et qu'on interdit aux enfants de parler et qu'on suscite la crainte chez eux, enfin la frayeur du moins. Donc, il y a dans l'organisation de la soirée tout ce qui est fait pour éveiller les enfants. Même les petits-enfants, des petits-enfants de 4 ans, il faut tout faire pour qu'ils restent réveillés une partie du CDR, pour leur donner des bonbons, pour qu'ils répondent à quelques questions, qu'ils puissent montrer ce qu'ils ont fait et qu'ils puissent être au centre donc, de cet acte de transmission. Dernier point, j'en aurai fini avec cette présentation. La pratique centrale du CEDER, c'est la question. C'est de poser des questions et d'amener des réponses. Même quelqu'un qui est seul doit se poser des questions. Même deux personnes qui font le CEDER seul doivent se poser des questions et y répondre. Et on ne s'est pas acquitté de son obligation de raconter la sortie d'Égypte si on n'a pas posé des questions et si on n'a pas amené de réponses. Pourquoi? Parce que la question, c'est l'éveil de la conscience. Et c'est ce qu'on veut pendant cette nuit-là. Pour que la émouna, la foi, le bitachon, la confiance en Hachem puisse s'imprimer dans les esprits, et notamment dans les esprits de nos enfants, il faut susciter quelque chose qui est de l'ordre de la question, du questionnement, quelque chose qui est un manque, la conscience d'un manque. Il me manque une information, il me manque une tranche de vie, il me manque quelque chose que toi qui es en face de moi, tu peux m'amener. Toi, l'adulte, tu peux me l'amener. Toi, mon ami, toi, ma femme, toi, mon mari. Tu peux m'amener des choses. Cette conscience du manque que l'autre va pouvoir combler, et en fait, peut-être même à deux, on va réfléchir et on va apporter des réponses aux questions qu'on se pose, c'est la clé de voûte de la transmission. Sans question, sans questionnement, sans éveil au questionnement et sans capacité à s'éveiller, à éveiller les autres au questionnement, il n'y a pas de transmission. C'est un des enjeux centraux. Voilà tout ce qu'on peut dire. On peut dire tellement de choses. On pourrait y rester justement toute une nuit pour parler du CEDER. En tout cas, à toutes et à tous, Shabbat Shalom, Chag Sameach. Et prions pour qu'on mérite une délivrance complète et qu'on mérite la joie de voir revenir les otages, parce que les récits des otages sont déchirants. Et c'est déchirant d'imaginer qu'on va être réunis alors qu'à quelques kilomètres, il y a des gens qui sont dans des caves que les nazis islamistes du Hamas torturent et privent de nourriture. Et c'est terrible de voir que finalement, près de 2 ans maintenant, après ce traumatisme du 7 octobre, eh bien on voit que. Il y a aussi beaucoup de divisions et on souhaite effectivement que les gens apprennent un petit peu, retrouvent le goût du dialogue et du partage. Et que les gens apprennent à se disputer cachère, comme je le dis souvent. Que ce peuple apprenne à se réapprenne à se disputer cachère. Voilà ce que je peux dire sur cette
Magnifique.
fête.
La discussion, le dialogue, la confrontation d'idées, tout ça, c'est vraiment le résumé de votre drachat de
Absolument.
ce soir.
Absolument.
Absolument. Il y a des petites jeunes filles de 18-19 ans qui étaient observatrices et qui ont été prises en otage, qui ont dit qu'elles ont fait Pessah. Elles ont dit, quand on a su que c'était Pessah, parce que certains otages ne connaissent pas les dates. Mais elles ont eu la possibilité de savoir et elles ont dit, on a refusé de manger du pain. Imagine.
Comme il est beau ce peuple. Comme il est beau ce peuple.
Incroyable. Ramandé Chabiton, Shabbat Shalom.
Shabbat
et
Shalom.
Et Chag Sameach. Et nous sommes en ligne avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh et Chag Sameach.
Bonsoir, Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Shabbat Shalom et Chag Sameach. C'est deux belles fêtes. Rav Gueh, vous voulez intervenir sur une idée de la Torah qui est celle de Chirut Olam. Chirut Olam, c'est la libération, mais j'ai envie de dire presque, oui, comme diraient les petits-enfants, la grande libération. Quoi. C'est-à-dire la libération pour toujours. Qu'est-ce que c'est que Chirut Olam ?
C'est une libération définitive. Il n'y a plus d'autres exils comparables à celui de l'Égypte. Alors c'est vrai que c'est difficile à comprendre parce que malheureusement dans l'histoire on a été très souvent sous la férule des nations. Nous étions exilés en Babylonie, nous étions exilés à Rome par les Romains et donc énormément d'exils. Et pourtant, on appelle ça Chirut Olam, une libération définitive. C'est ça qu'il faut expliquer. Il faut comprendre d'abord que lorsqu'on parle de sortir d'Égypte, il y a deux étapes. Il y a le soir du Seder, où on est libéré, on va dire, d'une façon officielle. C'est-à-dire que Pharaon déclare, vous étiez mes serviteurs, vous étiez mes esclaves, vous êtes, à partir de maintenant, les serviteurs de Dieu. C'est d'ailleurs le premier chapitre du Hallel. Hallelu avdei Hashem. Loué, serviteur d'Hashem, c'est un moment très important qui s'est passé au moment de Makkal de Chorot. Pharaon déclare et libère le peuple juif et le déclare très fort, très fort, parce qu'en fait il y a eu un miracle. Sa voix a été décuplée. Il a eu une force incroyable dans sa voix. On l'a entendu dans toute l'Égypte selon le Midrash. Et tout le monde a entendu, les Juifs ne sont plus mes serviteurs, ils sont les serviteurs d'Hachem. Et donc ça, c'est une première libération. Puis après, physiquement, nous sommes sortis d'Égypte que le matin. On n'est pas partis le soir même. Ils voulaient, les Égyptiens, qu'on parte tout de suite, mais on a refusé, parce qu'on a dit on n'est pas des voleurs. On part grand jour. Et donc, on est sortis physiquement la journée. Et on a été libérés la nuit. Cette libération est une libération définitive. Dans quel sens ? C'est-à-dire que être serviteur d'Hachem, c'est quelque chose qui est définitif. Et même lorsque des personnes ont pu prendre possession de notre corps, ils n'ont jamais pu changer notre statut. À aucun moment nous sommes devenus les esclaves, les serviteurs de qui que ce soit. Nous étions évidemment asservis par des nations, mais nous avions déjà acquis une certaine liberté que je voudrais, on va dire, représenter à travers une image que l'on connaît tous. On va bientôt célébrer Yom HaShoah. On voit sur certaines photos des Juifs qui sont mis en joue par les nazis et qui sourient. Et c'est des photos qui ont fait le tour du monde et c'est en fait un symbole qui veut dire que on est effectivement, on va mourir là dans quelques instants. Vous allez dominer nos corps, mais notre âme, notre personnel, nous ne sommes pas vos esclaves. Nous ne sommes pas sous votre férule. Nous sommes indépendants. Nous avons une certaine liberté dans le sens où nous sommes juifs et que vous n'aurez jamais la maîtrise de nos âmes, la maîtrise de notre personnalité. Vous allez maîtriser notre corps et c'est tout. Et ça, c'est important de le dire, que c'est Chirut Olam, ça veut dire que finalement, quelque chose de définitif s'est joué à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui doit nous rappeler que nous sommes à la naissance du peuple juif. Puisque, pour ça, je vous compare les juifs en Égypte comme un enfant fœtus dans le corps de sa mère. On est bien d'accord, une fois que le fœtus est devenu un enfant, qu'il est sorti du corps de sa mère, il est définitivement un homme, une fille, une femme, enfin peu importe quel sexe, il est un enfant, il n'est plus un fœtus. il a changé complètement de statut et il ne redeviendra jamais un fœtus. Ainsi, les Juifs, au moment de la sortie d'Égypte, deviennent mon grand maître et donc ils sont dans un statut sur lequel on ne pourra jamais revenir en arrière. Et ce peuple qui va d'abord sortir d'Égypte puis après recevoir la Torah va avoir donc une mission sur Terre et un statut qui sera donc cette notion de chérout. Le chérout est une notion de quelque chose de gravé, chérout, c'est le même mot qui veut dire gravé, chérout, chérout. Effectivement, il y a quelque chose qui est gravé en nous, cette existence, cette liaison avec Hachem, le fait d'être serviteur d'Hachem. Et ça veut dire aussi autre chose. Lorsque un juif pratique les mitzvot, eh bien, c'est que tout simplement, il ne le fait pas parce qu'il a un devoir, une obligation, et que c'est parce qu'il n'a pas le choix. Mais nous considérons que c'est comme lorsqu'on lit, à l'époque, on avait des disques. Qu'on les mettait sur le gramophone ou le lecteur de disque, on lisait ce qui était gravé sur la plaquette de disque. Le juif, il a au fond de lui la Torah et les mitzvot, elles sont en lui. Et lorsqu'il les accomplit, il ne fait qu'exprimer ce qui est son véritable moi, ce qu'il est vraiment. Et donc, lorsque les Juifs vont appliquer la Torah et les mitzvot, ils ne sont pas en train d'être des serviteurs d'Hachem dans le sens premier, c'est-à-dire faire les choses par devoir, par obligation, mais ils vont le faire parce que tout simplement, ça correspond à véritablement leur être profond. C'est-à-dire que lorsqu'un Juif pratique, il fait exactement ce pour quoi il a été créé, et son corps, son esprit sont créés de façon à ce qu'ils puissent pratiquer les mitzvot de la meilleure façon. Et lorsqu'on le fait, on devrait sentir ça comme quelque chose de naturel, comme quelque chose qui fait partie de nous. C'est aussi ça la notion de chérout olam, une sorte de libération qui est définitive, c'est-à-dire quelque chose qui est véritablement l'expression de quelque chose de profond en nous, quelque chose qui est gravé en nous, chérout. Et donc pour toutes ces raisons, donc il faut absolument que lorsque nous faisons nous marquons cet événement de ce samedi soir, dimanche soir. Oui, profitons de ce samedi soir. Profitons du fait que c'est samedi soir, des entre parenthèses, pour prendre des forces Shabbat, se reposer et vivre un seder tranquille et surtout n'étant pas trop fatigué par les travaux habituels que l'on fait la veille de Pessah. Et donc effectivement, c'est un moment qu'il faut savoir savourer. Et savoir que chaque année, à Chatzot, au milieu de la nuit, de nouveau Dieu se révèle à nous et il attend que nous soyons véritablement libérés de nouveau chaque année. Le Or HaYom HaKadosh nous dit que quel motia mimitrem, le Dieu qui les sort d'Égypte, c'est un présent, c'est un passé, parce que chaque année, on sort un peu plus d'Égypte. Chaque année, on éclaircit un peu plus, on apprécie un peu plus cette situation de sortir d'Égypte, c'est-à-dire de nous éloigner de ce que représente l'Égypte. L'Égypte représente évidemment cette incapacité que nous avions à être véritablement libres, c'est-à-dire être nous-mêmes. Nous étions complètement assujettis à l'Égypte comme un fœtus l'est dans le corps de sa mère. Le fait de pouvoir sortir d'Égypte, c'est-à-dire le fait de pouvoir retrouver ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire les fils d'Abraham, Yitzhak et Jacob, porteurs de leurs valeurs, c'est quelque chose qui s'est révélé et qui a pu exister simplement à un moment de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire au moment du sort du Seder cette année, dimanche soir, samedi soir. Et donc je nous invite à tous de vivre ce moment tout à fait unique, avec toute l'intensité, la ferveur qu'il convient, et nous rappeler qu'aucun moment, aucun homme et aucune femme ne peut nous assujettir. Je crois que les événements que nous avons vécu avec les otages qui ont été libérés et qui ont osé dans les sous-sols de Gaza de résister face à l'oppresseur, le Hamas, en respectant des règles de Torah exigeantes, c'est une façon de dire vous pouvez maîtriser et dominer notre corps, mais pas notre esprit. notre esprit, il reste libre. Donc cette représentation que nous avons cette année, en écoutant le récit de certains otages libérés, nous donne une sorte de modernité au message que nous enseignons depuis des années et qui nous montre que véritablement, pour être resté libre, la seule façon, c'est de garder ces valeurs que nous avons héritées d'Abraham Yitzhak Yaakov. Et c'est quelque chose que personne ne peut nous l'enlever à aucun moment, sous aucune forme, sous aucune façon.
Vous nous aviez enseigné, je crois que c'était l'an passé d'ailleurs, vous aviez dit cet événement mondial, la sortie d'Égypte, cet événement incroyable. On attend une fête. Non, ça se passe à la maison. Et chaque personne qui... Oui, je me souviens de ce que vous avez dit. Par contre, je dirais peut-être moins bien que vous.
Exact. je vais rajouter ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsqu'on dit que Dieu s'est révélé en Égypte, c'est oui, partout en Égypte. Mais j'ai expliqué que c'est comme lorsqu'on a une ambassade. Par exemple, l'ambassade des États-Unis en France est située place de la Concorde, c'est-à-dire au centre véritablement de la France, on peut dire, et même du pouvoir français. Et pourtant, lorsqu'on rentre dans l'ambassade des États-Unis, on est sous un statut d'extraterritorialité, c'est-à-dire la police française ne peut pas y entrer sans autorisation des autorités américaines. Et j'ai dit qu'en fait, chaque juif, il ferme sa porte, il rentre chez lui, il raconte l'histoire du Seder, et ainsi, il montre qu'il est une ambassade de cet royaume divin qui a des ambassades dans chaque maison juive, et en particulier le soir du Seder, où on rappelle les messages que l'Hachem veut que nous transmettions, son existence, sa capacité de faire des miracles, de changer l'ordre du monde, la Hashgaha Pratit, la providence divine, tout cela, nous le faisons et nous le rappelons chaque année, en montrant bien que notre maison doit être bien fermée, c'est-à-dire nous protéger des influences de certaines civilisations qui veulent nous faire croire autre chose, rester fidèles à notre message et le transmettre à nos enfants.
Amen, amen. Et en tant que journaliste, j'ajouterai juste une phrase qui est plutôt mon travail, de ce que je connais. Il y a une otage, qui est une femme du troisième âge, une grand-mère. Elle était sur une voiturette quand ils l'ont pris en otage, après ils l'ont mis sur une moto, et une fois libérée, on lui a demandé « Mais pourquoi vous souriez ce jour-là » Elle a dit exactement ce que vous avez dit. Elle a dit « Je savais que je ne leur ferais pas ce cadeau de m'humilier devant eux. Donc je les regardais et je souriais. Et il était hors de question que je pleure ou que je supplie. » C'est exactement ce que vous avez dit. Rav Guay, je vous remercie. Je vous souhaite un grand et beau Shabbat et de belles fêtes de Pessah. Bonsoir à vous. Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Shabbat Shalom, Chag Sameach et de très belles fêtes de Pessah pour toute la communauté, et que ce soit le dernier Pessah en exil, et très bientôt tous à Jérusalem avec le Beth Amikdash reconstruit.
Amen, et avec l'école Aleph. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari yeh, shalom shokat shoy meh.